Bien, bonsoir donc à vous toutes et vous tous donc pour cette soirée biblique autour de toujours de la chair corps monde. Alors avec le sujet qu'on propose pour aujourd'hui, c'est une chair sanctifiée. Donc bienvenue aux gens de Saint-Eustache, bienvenue aux gens de l'oratoire et puis à tous ceux qui sont entre les deux. Donc c'est bien sympa de se retrouver comme ça dans la diversité pour discuter, réfléchir, creuser la Bible pour chercher Dieu, bien entendu. Alors, je commence par les petites annonces. C'est qu'en fait, il y a une rencontre œcuménique, une célébration œcuménique organisée par Saint-Eustache Oratoire pour le centre de Paris, en fait, qui a lieu alternativement à Saint-Eustache et à l'Oratoire. Et cette année, c'est à l'Oratoire, donc mardi 19 à 20h, donc en face. Voilà. Mais sinon, je commence par une petite annonce. Sinon, ce thème de la chair sanctifiée, on a choisi donc des thèmes. Il y a deux guérisons finalement de lépreux, une du Premier Testament, de la Bible hébraïque, une de l'Évangile. Déjà, c'est vrai que si vous voulez ces guérisons, en particulier faites par Jésus-Christ, on peut toujours en faire une lecture symbolique, évidemment, une lecture allégorique, disant que, par exemple, la guérison de la vue, moi j'ai des lunettes, je ne cherche pas spécialement quand Jésus-Christ, j'ai une guérison, je n'irai plus besoin de mes lunettes demain. Donc on en fait souvent une lecture allégorique, disant ben, c'est la vue de la foi, la vue par l'intelligence, l'épanouissement de la réflexion personnelle qui nous permet de voir clair dans notre vie. Et là, ça dit effectivement quelque chose du salut donné en Jésus-Christ. La lèpre, évidemment, c'est de ce domaine-là aussi. C'est lu comme une purification de la personne, donc pour dire sa dignité, pour la réintégrer dans la société. Les rabbins, depuis toujours, en font une lecture, la lèpre étant synonyme, si vous voulez, de la médisance, finalement, de la conséquence de la médisance, à cause d'histoires dans le livre de l'Exode, de Moïse, de sa sœur Myriam. En tout cas, on en fait souvent une lecture allégorique. Là, on a quand même retenu ces textes pour, un peu pour le premier degré aussi, pour dire que Dieu ne se désintéresse pas de la chair, de notre santé, de notre corps, et donc que la chair aussi est faite, la volonté de Dieu, le salut en Jésus-Christ, le projet, c'est aussi que notre chair soit purifié, soit sanctifié, soit béni, et que voilà que ça. Alors effectivement, ces guérisons, c'est une occasion de faire une prédication sur le salut, interne par la foi, l'espérance et l'amour, comme dirait Paul, qui est sans doute ce qui demeure pour l'éternité. Mais le fait même qu'on prenne, par exemple, la lèpre comme un exemple du salut donné en Jésus-Christ, ça dit que la guérison du corps est suffisamment noble, suffisamment belle, suffisamment essentielle pour servir d'image quand même à cet essentiel qu'est l'apport de la foi dans une vie. Donc je pense que même si effectivement la lecture allégorique est bien sûr fondamentale pour essayer de s'approprier ces textes, même si on n'est pas lépreux par exemple, le fait même que ça soit la lèpre qui serve là de prétexte à une prédication, ça nous dit quelque chose aussi du projet de Dieu pour la santé du corps, la beauté du corps, la sainteté, de notre être au monde, comme un être corporel, comme un être animal aussi.
Bonsoir à tous, et puis comme je suis arrivé un peu en retard, bonne année à tous. J'aime beaucoup l'expression, vous savez, l'an de grâce, qu'on n'utilise plus beaucoup, mais donc nous sommes au début d'un nouvel an de grâce, et comme nous ne sommes pas des païens, nous ne disons pas que le temps est cyclique et que nous répétons, même si nous avons l'impression quelquefois que d'une année sur l'autre, les rites de Noël ou du premier de l'an sont un peu identiques. Par la foi, en revanche, nous allons plus loin que la nature, qui nous maintient dans le cycle des répétitions. Et par la foi, nous savons que chaque nouvelle année est un an de grâce, effectivement, un an de grâce qui nous est donné gratuitement. Et nous l'avons fêté à Noël. cette grâce, elle est venue précisément dans notre chair. C'est la nativité, c'est l'incarnation. Donc je crois que c'est en plein là dans le sujet de notre session. Effectivement, la grâce vient par la chair. Ce qui est d'ailleurs tout à fait farfelu pour la pensée antique. Hein, on a déjà eu l'occasion de le dire. Pour la pensée antique, philosophique, grecque, etc., la grâce ne vient pas par la chair. Or, nous, chrétiens, nous disons qu'elle vient par la chair, elle vient par le contact, elle vient par la rencontre du corps de Jésus. Et c'est un peu de tout cela qu'on va parler, de la manière dont cette rencontre guérit, cette rencontre nous restaure dans un monde qui est un monde de vivants, de voyants, de parlants, d'aimants, que Jésus appelle le royaume. Et nous sommes le corps du Christ, effectivement, par la foi. On va peut-être lire le texte, parce que quelquefois on a pris l'habitude de beaucoup introduire, mais ce serait bien peut-être de lire le texte du deuxième livre des rois, tout en ayant en tête le fait, bonsoir, que la lèpre désigne toutes sortes de maladies. Ce n'est pas forcément ce que nous appelons cliniquement lèpre. Aujourd'hui, vous savez, la Fondation Follereau, etc. Donc, dès qu'on avait des taches sur la peau, on pouvait utiliser ce mot hein, de lèpre. Voilà. Mais en tout cas, évidemment, ça englobait aussi la lèpre, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Qui veut bien lire l'extrait du livre des rois ? Allez-y.
Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme estimé de son maître, un favori, car c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, vaillant guerrier, était lépreux. Les Araméens étaient sortis en razzia et avaient emmené du pays d'Israël une fillette comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès du prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman vint rapporter ses paroles à son maître. « Voilà ce qu'a dit la jeune fille qui vient du pays d'Israël. » Le roi d'Aram dit, « Mets-toi en route, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il présenta au roi d'Israël la lettre qui disait « En même temps que te parvient cette lettre, sache bien que je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le délivres de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu ?» capable de faire mourir et de faire vivre, pour que celui-là m'envoie quelqu'un pour le délivrer de sa lèpre. Sachez donc, et voyez, il me cherche querelle. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que Naaman vienne me trouver, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras purifié. » Naaman s'irrita et partit en disant « Je me disais, il va sûrement sortir de chez lui et, debout, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, passera la main sur l'endroit malade et délivrera le lépreux. L'Abana et le Parpar, les fleuves de Damas, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver pour être purifié? » Il fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent. Ils lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait dit de faire quelque chose d'extraordinaire, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison quand il te dit « Lave-toi et tu seras purifié. » Alors Naaman descendit au Jourdain et s'y plongea 7 fois selon la parole de l'homme de Dieu. chair, sa chair devint comme la chair d'un petit garçon, il fut purifié. Il retourna avec toute sa suite vers l'homme de Dieu. Il entra, se tint devant lui et dit, « Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, et ce n'est, si ce n'est en Israël. Accepte, je t'en prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa.
Donc merci pour cette lecture. Alors c'est vrai que souvent, comment dire, tu parlais de la distinction entre les philosophes grecs et puis la Bible, cette théologie. Mais je dirais que déjà dans la façon, j'allais dire, de faire de la théologie ou de la prédication, de la présenter comme une histoire, c'est déjà assez typique, j'allais dire, de cette façon dont la Bible nous dit l'essentiel de l'humain. C'est-à-dire, c'est présenté comme une histoire. C'est pas un dialogue, c'est pas un discours comme Cicéron ou Platon. Vous voyez, c'est présenté comme une histoire. Et quelque part, ça nous dit que c'est pas simplement cérébral par une sagesse, mais que c'est dans notre histoire, dans une démarche, dans le temps, dans un dialogue, un dialogue avec une petite esclave, dans une démarche pour aller ailleurs, dans un déplacement, dans le temps, dans des rencontres. Bonsoir. Il faudrait prendre une petite feuille éventuellement sur la chaise à l'extérieur. Sur la chaise, il y a une petite feuille avec le texte, si vous voulez, voilà. Oui, donc je crois que déjà ça nous dit ça, alors que si c'est purement un discours analytique, peut-être que ça nous invite moins à le vivre dans notre chair, justement. Alors ici, on commence avec un personnage qui a tout. Hein. C'est une armée victorieuse, il est le chef de l'armée, il est estimé, il est bien vu, il est favori du roi, et ça va tout bien, quoi. Sauf qu'il est lépreux. Ce qui va le sauver au point de départ, donc au verset 2-3, quoi, c'est une fillette. Donc elle est la moindre des moindres. C'est l'opposé, finalement. Puisque, une fille, en plus étrangère, j'allais dire, hein, quoi ? Esclave, captive, dans le malheur, dans la faiblesse, et c'est elle qui va être salue pour son Seigneur. Alors elle n'y gagne rien, elle ferait mieux de rester tranquille. Elle prend des risques, à mon avis, en disant ça. Elle va envoyer son maître à Pétaouchnok se faire soigner. Si ça ne marche pas, je ne suis pas sûr qu'il va trouver la blague très drôle. Elle ne peut rien faire du tout, sauf finalement par servir de pont, finalement, servir de poteau indicateur pour mettre en rapport avec celui qui va pouvoir mettre en rapport avec Dieu qui est source du salut. Donc c'est quand même complexe. Alors j'allais dire, sa parole le sauve, ou elle est source de salut, mais sa parole finalement, de cette minuscule petite personne, au sens des humains, voilà, ça va être le... Et là, c'est ce que par rapport à ce que tu disais pour Noël, finalement, cet enfant Jésus qui est vraiment pitoyable, hein, j'allais dire, hein, qui est vraiment rien, mais qui est reconnu comme germe de salut, comme source, voilà. Et donc la petite, finalement, c'est un peu ce rôle-là dans cette histoire, peut-être, hein, et c'est elle qui est l'amorce d'une remontée. Alors, si effectivement les rabbins ont raison, et pourquoi auraient-ils tort, ils associent, si vous voulez, la lèpre à la médisance, donc à une parole mauvaise et les conséquences de la parole mauvaise qui est source de, comment dire, qui dégrade la personne qui est médisante, qui la rend, son corps devient problématique et qui est source de contagion. C'est vrai pour la médisance en tout cas. Alors on n'est pas forcé d'entrer dans, j'allais dire, quelque chose qui nous invite à un moralisme de base, ou en tout cas une éthique assez fondamentale, mais pas extrêmement élaborée, qu'il vaut mieux ne pas médire de son prochain, je crois qu'on est tous d'accord C'est d'ailleurs un des 10 commandements, des 10 paroles, tu ne mentiras pas contre ton prochain, tu ne feras pas de médisance contre ton prochain, ce qui laisse la porte ouverte à des mensonges, j'allais dire, bienfaisants, ce qui est très discutable, Kant en a beaucoup discuté, mais... Enfin bref, la médisance là s'oppose finalement à cette petite parole juste, petite parole vraie, petite parole courageuse qui va ouvrir, une petite parole de pardon aussi, parce que c'est quand même le sol, c'est quand même l'armée qui l'a capturé, retiré à ses parents, amené en exil, traité comme esclave. Ben, elle a cette parole de, non de médisance, mais de bienfaisance finalement, de pardon par rapport à son maître, de reconnaissance de la véritable puissance de vie, et elle n'est pas capable de cette puissance de vie, mais elle est capable de transmettre la bonne nouvelle finalement, et d'envoyer et de permettre à la personne de décider si elle se l'approprie ou non.
Ce qui est fascinant, c'est que ce récit de guérison, au fond, est aux antipodes de la magie. C'est tout le contraire de la magie. La magie, c'est toujours le fantasme d'une intervention immédiate, donc sans médiation. On a ça dans certaines sectes, y compris chrétiennes. Effectivement, des guérisons comme ça immédiates. Or, ici, il n'y a que des médiations, il n'y a que des intermédiaires. Et les intermédiaires sont des personnes, effectivement, plus ou moins fiables, elles n'ont rien de prestigieuse. La seule figure un peu prestigieuse, au fond, c'est le grand prêtre. Et il embrouille tout, hein. Il n'est pas celui qui favorise, mais d'une certaine manière, il est aussi, comme Caïphe le sera dans le Nouveau Testament, il est prophète malgré lui. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Caïphe, de même qu'avec la fillette, on ne peut pas s'empêcher de penser à Marie de Nazareth, qui est l'instrument, d'une certaine manière, humble, presque vil aux yeux du monde, l'instrument du salut. Et Caïphe, bien sûr, qui déchire ses vêtements, on pense à lui, d'autant plus que c'est un peu les mêmes chefs d'accusation, ou en tout cas les mêmes motifs d'énervement. Hein. Suis-je Dieu ? À vrai dire, en hébreu, c'est suis-je un Dieu ou suis-je Dieu ? Mais on voit bien qu'il y a une allusion ici à une sorte de sacrilège. Sachez donc et voyez, il me cherche querelle. Donc, une forme de provocation, ce qui a été reproché à Jésus. Devant le Sanhédrin, de faire de la provocation et d'aller jusqu'au sacrilège. Donc finalement, on n'a que des intermédiaires et on s'aperçoit que c'est une réflexion, et ça je pense que c'est constant dans la Bible, autant sur la guérison que sur la foi. C'est-à-dire que autant la pensée grecque va séparer le monde spirituel et le monde thérapeutique, corporel. Hippocrate, c'est même sa spécialité. Il va scinder les deux champs d'activité, les deux pratiques. Ici, constamment, dans la pensée biblique, ce qui concerne l'âme concerne le corps. D'une certaine manière, c'est inséparable. Et au fond, moi, je vois dans ce récit de guérison un récit de foi, une sorte de théologie narrative, comme tu suggérais, c'est-à-dire une mise en storytelling, comme on dit aujourd'hui, une mise en histoire de ce qu'est la foi, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement, il y a un mouvement initial, parce qu'au fond, il croit pas, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où il plonge dans le bain, il n'y croit pas. Donc on voit bien que la foi n'est pas une croyance. C'est pas comme l'enfant qui croit au Père Noël, qui pense que, voilà, en faisant une offrande au Père Noël, il va être... ici, précisément, on n'est pas du tout dans la croyance, mais on est dans la foi. Je pense que le distinguo n'est pas fait au plan conceptuel, évidemment, c'est une théologie empirique, mais qui est extraordinaire. Il y a bien une mise en mouvement initiale, et il a dû faire quand même des kilomètres, puisqu'il arrive de Syrie, etc. C'est pas la porte à côté, enfin, ce sont des régions dont on parle beaucoup actuellement, et il le fait avec son char. Il y a même une certaine foi initiale, parce qu'il porte, il emporte ses vêtements de fête, donc il y a quand même l'idée que ça va être pas mal. Il y a une confiance initiale, il y a un acte de confiance qu'il exprime de manière un peu païenne, effectivement, par l'événement de fête, par la grosse somme d'argent qu'il prend sur lui. Mais c'est un peu comme Abraham, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dynamisme initial, et ensuite un parcours du combattant avec des rencontres, etc. Comme si finalement la foi était effectivement, cette mise en mouvement, une sortie de l'inertie, hein, de la torpeur, du doute, de la répétition, de la monotonie, de la léthargie, de l'engourdissement, de toutes les facultés spirituelles. Donc il y a une mise en marche et il y a une confiance dans des personnes. Et des personnes qui ne sont pas reluisantes. Il y a cette fillette, ensuite il y a ses serviteurs qui lui disent oh, « il t'aurait demandé un truc extraordinaire, tu aurais trouvé ça tellement bizarre que tu l'aurais fait. » Mais là, il te demande juste d'aller dans le fleuve et tu n'y crois pas parce que c'est trop facile. Effectivement, on est impur, on va se laver, donc c'est trop basique. Ben, fais-le quand même. Et il croit ses serviteurs. C'est assez beau. Et on voit bien les réticences d'ailleurs. Il dit, ah mais moi je pensais que le prophète, il allait venir à ma rencontre déjà, et puis il allait me faire un tour de passe-passe. C'est ça qu'il dit, il passera la main sur l'endroit malade. Donc ça c'est la magie. Et puis ensuite, il dit, ah bah finalement en Syrie, il y a aussi des fleuves, et c'est quand même autre chose que les fleuves qu'il y a ici. Donc il pense en termes de qualité d'eau, donc il pense en termes de physique ou de médecine. C'est-à-dire que d'un côté, il est dans la magie, dans le fantasme pur, merveilleux. Et de l'autre, il se dit, mais au fond, si c'est juste ça, une histoire d'hygiène, nous, on a aussi bien. On a même mieux que Lourdes ou que le fleuve de Palestine. Et en fait, la guérison, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni la magie, ni la médecine. C'est autre chose, c'est sur un autre plan. Et à mon avis, c'est le plan de la foi, justement. Parce qu'il y a cette espèce d'itinéraire. On voit bien que ça ne se joue pas, justement, comme la magie, par un toucher. D'ailleurs Élisée ne vient même pas le voir, c'est assez étrange, c'est assez vexant. C'est pas le roi Midas, il touche pas pour guérir. Donc voilà, pour moi c'est un peu une parabole sur la foi comme guérison.
Oui, non mais c'est tout à fait ça, je pense, effectivement. Alors il y a le personnage des rois, effectivement. Eux, d'abord le roi de Syrie, il a pas bien écouté finalement ce qu'avait dit la fille, parce que il envoie une lettre disant à son collègue roi, guéris-moi ce type. Mais en fait, c'est pas ce qu'avait dit la fille. La fille, elle avait dit que c'était le prophète qu'il fallait aller voir.
Tous les rois sont mages à l'époque.
Les rois sont... Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les rois sont mages à l'époque, c'est-à-dire qu'on est roi de pouvoir divin, donc on a des pouvoirs divins. C'est-à-dire qu'effectivement, ça se faisait beaucoup, que le roi... Et guérissait, effectivement, normalement, les rois guérissaient les maladies, voilà, par toucher des mains, ça se faisait, ça c'était le signe de leur vrai pouvoir royal, divin, donc. Donc le roi n'a pas écouté, et puis le roi d'Israël, j'allais dire non plus, parce qu'en fait, le roi d'Israël, il imagine... pas une seconde qu'il puisse travailler avec un autre. Alors il dit, est-ce que suis-je Dieu pour être capable de faire mourir et de faire vivre? Non, il n'est pas Dieu. Mais il s'imagine qu'il y a Dieu, puis il y a lui, quoi. Mais il n'imagine pas une seconde qu'il puisse justement, précisément, comme la fillette, être un canal, travailler en équipe à la limite, travailler avec d'autres. Et puis même, s'il n'y a que lui et que Dieu, bon, si lui ne peut pas faire, il pourrait penser demander à Dieu, quoi. Ben non, il dit je peux pas le faire, donc ça va pas. Donc là, à mon avis, il y a quand même une réflexion qui nous est posée, et je crois que, je dirais simplement au niveau moral, bien que je me méfie toujours un peu de ce niveau-là, parce que c'est à chacun de découvrir dans sa réflexion personnelle et dans sa relation à Dieu ce qu'il va considérer comme juste. Mais quand même là, ça nous dit, oui, il y a des tas de choses dont nous sommes pas capables en fait. Comme le dit nos baptêmes, on est prêtre, prophète et roi. Donc ce roi, on l'est aussi. Donc chargé de gouverner, chargé d'apporter quelque chose au monde, chargé de guérir ceux qui sont malades, etc. Et puis on n'en est pas capable. Toujours. Parfois, si. Mais quand on n'en est pas capable, ben peut-être qu'effectivement, on peut se rendre compte que, comme ce roi, on pourrait demander à Dieu, comme la fillette, on pourrait envoyer à un prophète, on peut envoyer à un autre, on peut travailler en équipe, on peut soi-même, comme le fait Naaman finalement, si ça ne va pas, on est invité à un déplacement, c'est-à-dire à changer quelque chose dans notre façon d'être, dans notre façon... voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que les rois ne savent pas faire. Et donc là, les rois ont la mauvaise figure. Quelque part, ça dénonce peut-être une façon d'être au monde qui est trop centré effectivement sur la guerre, à la limite, c'est-à-dire sur la puissance purement physique, sans dénigrer la puissance physique, mais se limitant à cela, gommant toute transcendance, action de Dieu dans le monde, gommant toute, je dirais, invitation à un déplacement, toute mise en relation avec quelqu'un qui pourrait nous aider à entrer en relation avec Dieu, eh bien, on est en panne, voilà. Et on est même, selon le roi d'Israël, en danger de mort. Il se sent en danger de mort par ça, il se sent piégé. Et donc, lui aussi, finalement, il entre dans cette médisance, finalement. Parce qu'il dit du roi de Syrie, mais tu cherches à me perdre. Donc, il entre dans une médisance, dans une imagination de la méchanceté de l'autre, dans une sorte de film qui se fait, procès d'intention vis-à-vis du roi de Syrie, alors que non, pas du tout. Le roi de Syrie n'a pas compris grand-chose, mais il cherche simplement le salut de son chef de guerre, ce qui est bien sympa de sa part, un peu maladroitement, mais il essaye quand même. Donc, finalement, il y a là un contre-type, finalement, de la foi qui nous est donnée à travers ces rois, nous montrant une autre... Souvent, les textes de la Bible sont comme ça. Il y a une figure du juste et une figure du méchant, finalement. Alors, ce n'est pas des fois pur juste et pur méchant, mais souvent, quand même. Donc là, dans les rois, on a une figure du méchant. Dans Naaman, on a une figure de l'homme qui se convertit, finalement. Donc, c'est pas vraiment la figure du juste, c'est la figure de celui qui entre dans une justification, dans un processus de guérison, comme tu le disais, de guérison physique, mais aussi de guérison en passant de la violence victorieuse, mais qui fait du mal, finalement, qui opprime les petites filles, qui est malade de ce mauvais rapport à l'autre, hein, finalement. Jusqu'à un homme guéri dans son relation à l'autre et sa relation à Dieu. Donc lui, il est une figure de celui qui entre dans la foi, par la foi, une foi progressive, qui entre dans un cheminement de salut. Les rois, ils sont le contre-type, ils sont la figure de celui qui est tellement enraciné dans le pouvoir de ce monde, dans la simple pouvoir physique, que ça ne le fait pas, quoi. Et la fillette, donc, elle aussi est une figure de salut, mais donc dans la faiblesse et dans le courage et dans la bienveillance, ça nous dit aussi quelque chose de l'être juste, finalement, même dans cette faiblesse ultime qu'a cette fillette. Alors ensuite, est-ce que c'est une disqualification de la puissance du corps? Je ne pense pas, finalement, parce que le Naaman sauvé, il retourne à la maison, quand même. Il ne reste pas à devenir... il ne devient pas prophète de Syrie, il ne devient pas... Donc c'est un homme transformé, mais qui retourne dans la vie en ce monde, mais qu'aura peut-être un autre rapport, et à Dieu sûrement, c'est dit explicitement, et à l'autre aussi. Et dans son rapport à Dieu, comme tu le disais, c'est vraiment la foi, il va apprendre aussi un autre type de rapport à Dieu, qui n'est pas dans le donnant-donnant, mais qui est dans la gratuité, dans la grâce. Et ça, c'est aussi, j'allais dire... dans cette démarche de foi.
D'ailleurs, on nous dit qu'il sort de l'eau avec la chair comme celle d'un petit garçon. Hein. Oui, oui. Il y a quelque chose de baptismal quand on sait ce qu'est la chair en plus pour la pensée biblique, c'est-à-dire que c'est la condition humaine au fond intégrale. Donc, il y a une espèce de... C'est pas seulement une guérison physique, c'est aussi... Oui, c'est baptismal, c'est une espèce d'innocence restaurée. Et dans la manière même de parler, après, on a l'impression, ou c'est peut-être moi qui projette, mais d'un homme beaucoup plus apaisé, moins colérique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la suite immédiate, il y a une sorte de double suite, parce que c'est un conte, c'est très beau. Il dit, mais tu sais, moi, je vais retourner d'où je viens, et je suis au service du roi de Syrie, le roi d'Aram, et... il sacrifie au faux dieu, donc je vais être obligé avec lui dans les cérémonies officielles de faire la même chose. Et Élisée lui dit, va en paix. Je trouve que c'est très beau parce que nous sommes plongés dans un monde interculturel aussi, où on est sans cesse confronté à des pratiques différentes. On pratique des mariages qui sont des mariages par disparité de culte ou des mariages mixtes. Et se pose souvent la question de la vie religieuse, la vie rituelle, par exemple, hein, un mariage d'un catholique avec un juif. Est-ce qu'il faut faire le Shabbat, allumer les lumières le soir avec... Élisée dit « va en paix quand même, c'est assez beau ». Alors le général dit quand même qu'il va prendre un peu de terre d'Israël, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, pour pouvoir sacrifier de temps en temps quand même sur la terre d'Israël. Donc il est resté un peu fétichiste, mais la parole, parce que c'est quand même une histoire de parole, hein, on est vraiment, je ne suis pas lacanien, mais enfin... Quand même, la relation, c'est une relation de sujet parlant à sujet parlant. Et il lui dit, va en paix. Et alors, la deuxième fin, c'est alors beaucoup plus... c'était tout à fait étrange. Vous avez vu que Élisée refuse d'être payé pour sa prestation, comme le fera Jésus, d'ailleurs. Sauf qu'Élisée a un serviteur qui court après le char de Naaman, qui se dit, il y a une belle aubaine, là, à ne pas rater, et qui laisse entendre à Naaman, allez voir le texte, parce que c'est à mourir de rire, on voit Naaman qui descend de son char, qui lui dit, c'est passé quelque chose, c'est un vrai western. On a l'impression que... d'ailleurs, on est dans une autre forme de narrativité, beaucoup plus populaire, sûrement. Et le serviteur dit, Élisée vient de recevoir des hôtes, il a besoin de tes vêtements de fête. Et donc, Naaman lui laisse, parce qu'il était prêt, il ne voit pas, il ne subodore pas l'escroquerie, et il lui donne le vêtement de fête. Et lorsqu'il revient, Élisée, qui a tout compris, lui dit, tu m'as menti, etc., tu t'es fait payer à ma place, donc que la lèpre tombe sur toi. Vous voyez, théologie rétributive. Mais ça, c'est tout à fait nouveau d'une certaine manière, parce que le pur et l'impur dans l'Ancien Testament ne sont jamais liés à la vie morale. Le pur et l'impur, c'est des questions rituelles. On est impur par contact ou par les aliments que l'on mange ou par la maladie. Hein, dans l'anthropologie ou dans la cosmologie même hébraïque, vous avez trois niveaux. Il y a l'impur, le pur et le saint. Si l'impur contamine le pur, il y a souillure. Si l'impur contamine le saint, il y a profanation. Le mot hébreu est assez proche de profaner. Profaner, ça veut dire devant le temple, hein, profanum. C'est à peu près la même chose en hébreu. Donc vous voyez, vous avez un système qui est très figé. Par exemple, les membres de la tribu de Lévi, les Cohen, les prêtres, sont purs, quelle que soit leur vie morale, même si ce sont des gens corrompus, etc., ils sont considérés comme purs. Alors, cette pureté, ils la restaurent sans cesse par des rites, etc. Mais vous voyez que ce n'est pas tellement lié au péché. Or, là, on a l'apparition, quand même, avec le mensonge du serviteur et puis son goût du lucre, sa cupidité, il y a quand même l'introduction de l'impureté comme impureté morale. Ça, c'est, on voit qu'il y a conflit d'ailleurs entre plusieurs systèmes religieux dans le texte. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Mais... ce que j'en pense, c'est ce que je te disais, c'est que le fait que la médisance provoque la lèpre, c'est quand même un grand classique.
Oui.
On l'a déjà pour Moïse et on l'a pour Myriam, la sœur de Moïse aussi, qui tombe, qui sont frappées par la lèpre immédiatement après avoir dit du mal.
Les péchés de bouche.
Péché de bouche, hein.
Oui.
Péché de mensonge, d'arrogance, de dire du mal de l'autre, etc. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment une punition de Dieu, etc. Je pense que c'est plus l'idée que il y a des choses qui nous déconstruisent, quoi, qui font une dégradation de notre être entier. Et c'est pas complètement faux, à mon avis. C'est pas de la rétribution. C'est simplement, c'est ce qu'on dit aux enfants, si on mange que des bonbons Haribo, peut-être qu'on ne sera pas en bonne santé demain, mais ce n'est pas Dieu qui nous punit ou qui nous fait tomber les dents par punition de notre sale gourmandise. C'est juste comme ça, la vie est comme ça. Donc, c'est pareil finalement, je pense, que c'est une rétribution, c'est pas une rétribution, c'est une réalité.
C'est le karma, alors c'est une conséquence de...
Non, c'est pas... Oui, parce que le karma, il y a quelque chose de divin derrière, avec une rétribution divine. Là, c'est pas ça, c'est une conséquence. C'est, si on vit comme un... Si on vit comme un cochon, ben en fait, on a... Notre être, notre corps va moins bien se porter. Alors on pourrait dire que ça peut être un effet psychosomatique, mais au niveau spirituel, existentiel, c'est quand même vrai, quoi. Je pense, hein, celui qui ne se pose aucune question, qui vit n'importe comment, ben, je ne suis pas sûr que ça l'aide à se développer dans un bon rapport à l'autre, un bon rapport à soi-même, un bon rapport à la vie, un bon rapport au monde. Un bon rapport à Dieu. Et c'est pas une punition de Dieu, c'est tout juste comme la santé du corps marche comme ça, ben le psychique aussi marche comme ça, notre capacité à espérer, à aimer, à s'engager, à la gratitude, au recul par rapport à les choses, pour prendre une décision, pour rebondir quand il nous arrive une tuile. Ben, tout ça, malgré tout, ça peut se dégrader ou ça peut se travailler, voilà, je pense quand même. Et ça, c'est pas de la rétribution, c'est simplement la vie qui est comme ça.
Ah, mais moi, je suis entièrement d'accord, mais c'est présenté quand même, c'est comme dans Job.
Par oui, exemple, c'est présenté
à la
comme
fin,
ça.
Il est... oui. Oui, c'est présenté...
Comme une rétribution de Dieu. Oui.
Parce que,
non, c'est vrai.
Il y a quand même une pensée qui tâtonne.
Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est en Jésus-Christ qu'on apprend que Dieu n'est pas le Père Fouettard, ni le Père Noël, quoi. Alors ça, c'est une grande découverte, en fait. Je pense que c'est utile, ça fait de l'usage, quand même. Ça fait de l'usage. Alors, moi, j'aime bien cette phrase, donc, au verset 8, hein, « Que Naaman vienne me trouver, il saura qu'il y aura un prophète en Israël. » Et c'est ce que tu disais, finalement. C'est d'abord essayer de faire l'expérience, et puis après, on a la connaissance. Donc, c'est pas la croyance qui déclenche le salut. C'est... Dans un certain sens, la connaissance, elle est nécessaire au début, comme une possibilité. Ensuite, on propose d'entrer dans une expérience et ensuite, on sera dans la connaissance. Alors, parfois, on oppose, foi et connaissance. Et on dit que la foi, c'est justement quand on ne sait pas Dieu et qu'on fait juste confiance à un mystère. Alors, moi, j'ai très, très peur dès qu'on commence à parler de mystère de quelque chose, parce qu'en général... C'est le joker du théologien qui est face à ses conséquences et qui dit, écoutez, vous êtes sympa, par la foi, vous arrêtez de réfléchir et ça va aller mieux. Je ne crois pas du tout, si vous voulez que ça soit ça.
Objection, votre honneur.
C'est un peu facile, moi, je trouve, parce que le mystère, dans le grec, c'est le secret qui est révélé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dépassait le niveau de connaissance naturelle, mais auquel on peut accéder, justement, d'une manière... par une expérience de la transcendance. Mais du coup, ce n'est pas quelque chose qui est simplement incompréhensible et qui nous impose de zapper notre intelligence, de la mettre en suspens face à l'absurde. Ce n'est pas du tout ça. C'est plus comme Naaman ici. Oui, il y a quelque chose de plus que l'on peut découvrir. Mais moi, je dirais la même chose à un athée, finalement. Qu'un athée qui ne croit pas en Dieu se mette à prier... Et alors il saura qu'il existe une puissance, qu'une puissance de guérison dans la prière. Voilà. Et donc il n'y a pas besoin de le... Mais après on peut savoir, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens quand même qui ont fait l'expérience de la foi. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont moins la foi ou qu'ils sont moins dans la foi. Ils ont donc une connaissance expérimentale du fait que Dieu dans la vie peut vraiment changer quelque chose. Mais ça peut être au contraire un renforcement de la foi finalement.
C'est Pascal. Prenez de l'eau bénite, cela vous améliorera. Ça ne veut pas dire cela vous rendra idiot, cela veut dire cela mettra la raison un peu de côté et permettra à la foi de pénétrer.
Il faut ployer la machine, s'agenouiller, prendre de l'eau bénite. Et de fait, on est dans quelque chose d'assez pascalien. On voit bien que ça n'est pas la guérison qui engendre la foi. Ce n'est pas parce qu'il y a un miracle. Qu'on se dit, tiens, effectivement, tout ça c'est vrai, donc je crois.
Mais là, un peu quand même, non ?
Ah ben non. Ah, oui, mais si ce n'est que la guérison, à mon avis, ce n'est pas parce qu'il s'est baigné cette fois. Non. C'est parce qu'il a, il y a la foi d'abord.
Il a eu cette démarche.
Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Enfin, pour continuer dans.
Oui, non,
dans
la foi
Pascal.
Précède, mais il y a un approfondissement, ah, dans oui. la, voilà. un approfondissement dans l'expérience.
Et c'est à peu près la même chose qu'on va voir dans la page de l'évangile de Luc, avec la guérison des lépreux.
Alors, il y a quand même quelque chose oui. d'intéressant dans cette affaire, si vous voulez, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, et c'est souvent le, notre cas finalement dans la prière, on est déçu que, ça se passe, que le processus de salut ne se passe pas comme on le pensait. Et souvent dans la prière, on a envie de dire à Dieu, voilà, je m'attendais moi à ce que ça se passe comme ceci, comme cela, et on veut fixer la méthode de Dieu pour être dans le chemin de salut ou le chemin de croissance du monde ou pour que ça aille mieux. Ben en fait, ce n'est pas une trop bonne idée. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas une trop bonne idée. Alors, effectivement, pourquoi est-ce qu'Élisée ne sort pas ? C'est irrespectueux, ce n'est pas très sympa, ce n'est pas du bon accueil. Ben c'est peut-être pour s'effacer, justement, face que ce ne soit pas lui qui soit pris pour un sorcier, mais qu'il découvre que c'est dans une relation personnelle. Et puis, que quelque part, c'est, il a un rapport à l'altérité, c'est-à-dire qu'il refuse. Il dit, ben, les fleuves chez moi, ils sont bien supérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, il refuse que de se décentrer finalement de lui-même, de son... et ça, c'est quand même un petit peu un problème, ce refus de se décentrer de la manière dont il pense que ça va se passer. Et du coup, ça fait obstacle. Or, souvent, on voit des gens hein, qui disent, mais moi, puisque c'est comme ça, bah, Dieu n'existe plus et je perds la foi et je perds la pratique. Bah, c'est-à-dire que quand... c'est peut-être un peu ce que je disais par rapport au mystère. C'est-à-dire que quand notre théologie... achoppe par rapport à la réalité, ben, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, on peut se dire ben, je vais développer ma théologie, je vais évoluer dans ma théologie, je vais évoluer dans ma façon de concevoir le juste, la juste relation à Dieu, la juste façon d'avancer. Donc il faut convertir aussi peut-être notre espérance de Dieu, voilà, notre parce que de toute façon Dieu vient toujours dans l'inattendu donc par définition puisqu'il est créateur donc c'est vrai que tant qu'on est fixé dans voilà ben, en fait on risque de passer à côté à ce moment là il faut évoluer dans notre théologie, convertir aussi assouplir notre façon d'attendre et être disponible à cette nouveauté voilà.
Il n'y a pas d'autre prière de demande que les demandes du Notre Père, d'une certaine manière. Mais on a beau le savoir, parce que Jésus nous le dit, quand vous priez, ne priez pas comme les païens. Les païens font des prières de demande. Ils veulent être exaucés pour ceci, cela, pour une guérison, etc. Mais Jésus le dit explicitement, c'est une prière qui n'est pas déshonorante, mais qui est une prière... païenne, donc apprends-nous à prier, quand vous priez, ne rabâchez pas, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Donc, en dehors des sept demandes de la prière du Notre Père, c'est vrai qu'on peut s'égarer d'une certaine manière, parce qu'on ne demande plus la venue du royaume ou la venue de l'esprit, on demande d'autres choses qui sont légitimes. Hein. Le Père Bouillet, je ne sais pas si tu vois l'oratorien, Louis Bouillet, disait « Il ne faut pas renoncer à la prière de demande ». Et il a raison, parce que nous croyons quand même dans un Dieu qui sauve. Donc, de ce point de vue-là, si on veut justement, comme je disais tout à l'heure, être restauré dans un monde de vivants, de parlants, de croyants, d'entendants, de voyants, de gens qui vivent pleinement... Il faut bien croire que notre Dieu est un Dieu qui apporte un salut et qui donc est capable de un jour de restaurer, voilà. Mais vous ne savez ni le jour ni l'heure. Enfin, et il ne faut pas mettre notre foi dans, enfin, il ne faut pas conditionner notre foi par la réalisation de.
On n'a aucune idée du salut.
Absolument.
On se fait sa petite
idée, bien sûr, bien sûr. Et du coup, on s'enferme effectivement. Et on s'enferme d'une manière qu'on ne peut pas juger. Parce que quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui souffre, on ne peut pas. Effectivement, ce qu'il veut, c'est sortir de ça. Et c'est tout à fait normal. Donc sa prière est bonne. Mais.
Mais
elle est.
Oui. Bah oui.
Le fait de ne pas guérir n'est pas. Un désaveu de,
c'est un, oui, c'est
de,
ça.
De sa prière. Ça ne veut pas dire que sa prière n'avait aucune valeur.
C'est-à-dire, moi, je dirais d'accord pour la prière de demande. Il ne faut pas y renoncer. Sauf qu'il faut ajouter à la fin peut-être deux choses. Non ma volonté, mais la tienne. Et ça, c'est quand même assez Jésus à Gethsémané. C'est déjà, ça fait, à mon avis, quand même de l'usage. Pas seulement pour ne pas être déçu, si vous voulez, mais aussi dans le rapport à Dieu. Parce que si on dit « Seigneur, guéris cet enfant de sa lèpre ou de sa leucémie ou de je ne sais pas quoi », quel genre de théologie on a ? C'est-à-dire que ça veut dire que, voilà, on pense que Dieu ne le sait pas, que Dieu ne veut pas ou que quoi. Et puis que nous, on saurait mieux que Dieu ce qu'il devrait faire ou ce qu'il pourrait faire. Donc ça, à mon avis, c'est gênant déjà dans notre théologie, dans notre spiritu, dans notre foi, dans notre relation, dans notre relation à Dieu. Savoir qui est le chef, quoi. On ne parle pas comme ça. C'est comme je dirais l'élève de maternelle qui va apprendre à un prix Nobel de mathématiques comment on fait une addition, quoi, si vous voulez. Ça fait un peu rigoler, quoi. Donc il y a un moment, il faut se rappeler quand même qui est qui. Et ça, c'est un peu le danger de la prière de demande brute de décoffrage. Donc si on ajoute que ta volonté et non la mienne, ça permet quand même de replacer les choses en perspective. Deuxième chose, c'est, je crois que c'est quand même essentiel d'abandonner l'idée d'un Dieu tout-puissant. C'est-à-dire que quand il y a une leucémie qui n'est pas guérie, c'est pas que Dieu voulait pas ou ne savait pas, c'est qu'il a pas pu. Et donc je crois qu'on pourrait dire alors non ma volonté mais la tienne, et puis bah fais ce que tu peux, parce que ça innocente Dieu au départ, voilà, ou fais au mieux, quoi. Je sais que tu ferais au mieux, et c'est dans cette confiance que Dieu fera au mieux, et que du coup s'il le fait pas, on n'est pas fâché. Je crois que c'est quand même un peu... C'est une bonne idée, quoi. Alors ensuite, il y a pas mal de mystiques qui disent quand même un écueil de cette prière de demande. C'est que si on demande à Dieu de guérir, je dirais, notre corps aux pieds, en fait, ce qu'on adore dans cette prière-là, c'est nous-mêmes. Puisque on... en fait, ce qu'on adore, c'est ce qu'on cherche, ce qu'on espère. Et donc, à ce moment-là, on adore notre santé et notre corps, et on fait de Dieu son valet dans cette adoration de nous-mêmes et de notre propre corps.
C'est une prière de souffrance.
C'est une prière de souffrance, oui. Alors, je pense que...
Celle-là,
oui.
N'est pas quand même...
Oui, sauf que je préfère... l'entendre comme ça, comme une prière de souffrance, de lamentation, disant on partage notre souffrance à Dieu comme on le partagerait à un ami. Mais à ce moment-là, c'est quand même Dieu qu'on prie pour Dieu. C'est pas, on ne prie pas Dieu pour notre corps aux pieds. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Enfin... Oui, oui. Donc, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise prière. C'est là que j'irais dans le sens de Bouillet. De toute façon, quand on prie, c'est toujours juste. Parce que c'est comme quand on désire. Quand on désire, notre désir est toujours juste. Ensuite, on peut évangéliser ce désir pour en faire quelque chose qui soit source de vie et qui ne soit pas non plus source de mort. Pour notre prière, c'est pareil. Tout élan de prière est légitime. Ensuite, si on peut évangéliser ce désir de prière, cette recherche de guérison, ce qui est tout à fait légitime... Ben, on peut être dans un rapport moins païen à Dieu, quoi. Et c'est un peu ce que dit Jésus. Il dit, mais celui qui demande la santé du corps ou le machin, il est païen. Jésus lui-même le dit dans Matthieu 6, je pense. Donc, faut entendre ça, si vous voulez, quand même. Donc, c'est pas mauvais d'être païen. Jésus, il est venu pour les païens et les pécheurs. Donc, au contraire, ça nous rend candidats à recevoir le salut en Jésus-Christ. Mais... C'est-à-dire, c'est pas que Dieu soit fâché, si vous voulez. C'est pas, évidemment pas la question. Mais la question, c'est d'être dans un rapport juste avec Dieu, et puis dans cette confiance, quand même.
Qu'est-ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ?
J'ai pas entendu.
Qu'est-ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ?
Toute âme qui s'élève le monde, ou élève le monde. Oui, c'est une spiritualité de la communion des saints, hein, Sainte Thérèse. La petite voix, on s'en remet à la prière des autres, à cette solidarité.
Oui. Mais ça nous ramène quand même, on ne peut pas faire abstraction de ce que l'on est, justement, la chair.
Donc, oui, mais tout à fait, oui.
Au sujet de départ,
oui.
Et au sentiment qu'on peut avoir avec les gens, les ex-voto, des soldats qui sont morts, qui ne sont pas morts, etc. On ne peut pas non plus faire abstraction de ça. Donc c'est ça qui...
On ne peut pas juger cette prière, et même il faut reconnaître qu'elle est... C'est la prière du psalmiste, au fond. Le psalmiste, souvent, c'est un homme qui souffre. C'est la prière du souffrant. Pas toujours, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est présent dans le psaume. Et chez Job, hein, bien sûr, la prière de Job. Bon.
On peut évangéliser ça, quand même, à mon avis. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire, quand même, dans cet enseignement sur... quand il nous dit, méfiez-vous de la prière pour le... De qu'est-ce qu'on va manger, de quoi on sera vêtu, et pour le corps, hein. Il nous dit, c'est païen, donc faites quand même gaffe à ce que vous faites. Et il nous invite, je crois, à évangéliser cela quand même, à le rendre, à le travailler, à le purifier, et à être dans un rapport peut-être moins superstitieux, moins idolâtre à Dieu. Mais ça ne veut pas dire, Jésus lui-même, quand il est à Gethsémané, il rigole pas, si vous voulez. Là, il y a un danger pour son corps, d'ailleurs, et on va en parler si on a le temps d'aller jusque-là, mais il rigole pas, il dit quand même, mais moi je vois les choses autrement, que ça... Que mon corps ne souffre pas et que je vois les choses différemment. Et il le dit à Dieu. Donc je crois qu'on peut le dire à Dieu, mais je pense que c'est juste et utile d'apprendre, d'arriver. Je ne dis pas qu'il faut y arriver, je dis que c'est bon d'y arriver, d'arriver à se placer dans un rapport à Dieu où on peut dire à Dieu justement notre projet sans lui dire « fais-moi ça ». Il me semble que c'est mieux. Bon, ensuite, on fait comme on peut. Moi, je suis comme vous. Quand je perds mes clés, je demande un coup de main à notre Seigneur, hein, Tout-Puissant.
Moi, jamais.
Même si
mais
j'y
en
crois
revanche,
pas.
Il y a des cas, bien sûr.
Que... Toi, tu demandes à Saint-Antoine.
Non, rien du tout. Ah. Mais, non, mais
tu
là...
Tu les cherches.
Non, mais entre le corps au pied et les clés, tu vois bien que tu prends des exemples qui sont... Mais je pense que madame... Voilà, pense à des choses qui sont...
Non, mais on est d'accord.
Oui, oui.
Non, mais je suis d'accord. Je parlais de...
Moi, c'est les frères Karamazov, quoi. C'est la souffrance de l'enfant, c'est...
Mais moi, j'en ai déjà parlé...
Dans la peste de Camus, on a ça aussi, on voit un enfant...
J'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est que j'ai enterré. Mmh. Voilà, j'étais débutant pasteur dans le fond du plateau Ardéchois. Et dans un... Voilà, et il y a une petite de 11 ans qui meurt de leucémie après 3 ans de souffrance atroce avec la famille toute entière et la paroisse qui priait pour la gamine, je veux dire. Mais... Il y a là, si vous voulez, quand même quelque chose de dangereux. C'est que si on est dans une théologie du Dieu Tout-Puissant, de la prière qui cherche à convaincre Dieu, etc. Mais on est, c'est quand même extrêmement dangereux, parce que du coup, à mon avis, on se trompe de Dieu quand même.
Mais j'ai eu le cas aujourd'hui, une collègue de travail dont la nièce est atteinte d'un cancer, et qui me disait, tu sais, on va à la médaille, à la
médaille
chapelle de la médaille miraculeuse, etc. Alors... Dans ces cas-là, j'écoute, je ne peux pas faire autrement. Elle guettait dans mon regard, elle espérait bien sûr que je lui dise « mais tu sais, 3 médailles c'est mieux qu'une » ou que... Bon, parce qu'elle était désemparée, elle est la tante, elle est la marraine, et bon. Alors, c'est difficile de réagir dans ces moments-là. Alors, heureusement, elle m'a dit « mais tu sais, déjà le lieu, le mélange des... » Des milieux sociaux, c'est ça dont on fait l'expérience à la médaille miraculeuse. C'est pour ça qu'on ne peut pas mépriser d'ailleurs cet endroit. J'habite à côté, j'y passe de temps en temps. Ce n'est pas mon esthétique préférée, mais de fait, il y a cette ferveur, il y a cette prière continue qui. Bon, il y a cette expérience spirituelle forte de Catherine Labouret. Tout ça existe et a aussi un certain poids. Mais il faut effectivement que ce soit évangélisé, c'est-à-dire que il faut ouvrir cette souffrance il ne faut pas que les personnes soient enfermées dans leur... Mais il faut les aider à...
Il faut les, à mon avis, il faut les aider, effectivement, à être dans un rapport à l'autre et un rapport à Dieu. Et que ça peut vraiment, effectivement, aider à avancer. D'abord, il y a des guérisons qui sont dues au fait que le corps et l'esprit sont incroyablement mêlés. Peut-être aussi, comme ce Naaman, notre corps, notre esprit, dans toute sa complexité et sa richesse de foi, de spiritualité, a des ressorts d'énergie et d'auto-guérison absolument surprenants. Et donc, c'est pas impossible que, comme des fois il y a un cancer qui apparaisse comme ça, le cancer disparaisse tout autant. Mais je crois quand même que c'est dangereux d'être dans un rapport magique à Dieu. Et donc, j'ai bien aimé ce que tu disais, c'est que quand même là, Élisée s'en méfie comme de la peste, justement, de passer pour un sorcier et un guérisseur. Et dans un certain sens, c'est ce qu'on va voir dans le lépreux de Jésus. C'est ta foi t'a sauvé, c'est ni Jésus, ni Dieu dans un sens, vous voyez ? C'est-à-dire qu'à travers Jésus et Dieu, il va découvrir qu'il est déjà sauvé, peut-être. Ou c'est dans sa dynamique, voilà. Ensuite, je dirais, pour la fille qui est malade de cancer, disant ben, que Dieu les accompagne, je dirais, dans cette espérance, et qu'il y travaille avec eux, mais qu'il fera ce qu'il peut. Et je pense que c'est quand même bien, en amont, de dire, oui, c'est important de le partager avec Dieu et de le partager avec d'autres, et on est à côté de vous dans la fraternité et dans la prière, mais l'issue, voilà, c'est pas que Dieu le sache pas, c'est que pas que Dieu ne veuille pas déjà, plus c'est mieux que nous ne pouvons le faire, la guérison physique de cette gamine. Mais ça, c'est quand même important.
C'est ce que dit Jésus, d'ailleurs.
Mais oui, c'est ce que dit Jésus.
Il le dit explicitement, d'ailleurs. Oui. Il dit, ne croyez pas que le Père... ne sache pas, je ne sais plus exactement la phrase, mais...
C'est très bien de quoi vous avez besoin avant même qu'on lui demande, oui. Nous dit Jésus. Donc, ce n'est pas la question de lui apprendre ou de le convaincre, mais d'être dans un processus, j'allais dire, où on permet peut-être la guérison à l'intérieur de soi-même. Dieu est pour la guérison physique, évidemment, c'est le Dieu de la vie, c'est le créateur de la vie, mais le monde est encore en genèse, et donc il reste du chaos dans ce monde, et donc il reste du quoi ?
Puis la mort existe.
Oui, mais la mort, quand on a 106 ans et qu'on meurt d'un cancer et de fatigue réunie, bon, je veux dire, c'est mignon. C'est triste pour la famille parce que, bien sûr, mais bon, je veux dire, on sait que c'est la vie. Quand c'est une gamine de 11 ans, non, c'est pas la vie. C'est pas la vie. C'est juste la catastrophe, quoi. Mais c'est le chaos dans l'univers, il reste du chaos dans l'univers, et donc on y travaille. Et quand on fait de la recherche pour le cancer, on ne lutte pas contre Dieu, contre sa volonté de machin, de nous tester ou de machin. Non, on travaille avec Dieu pour créer un monde, pour participer à cette mise en ordre du chaos et que là il y ait de la santé, qu'il y ait du bonheur et que les gamines ne meurent pas à 11 ans de leucémie. Oui, non, ça c'est pas, c'est absolument pas la volonté de Dieu. C'est définitivement toujours contre la volonté de Dieu que ces morts cruelles, ces souffrances atroces, ces catastrophes épouvantables, c'est jamais la volonté de Dieu. Mais ça, je crois qu'il faut... Je crois que quand même, c'est bon de le savoir et d'être... Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas puissant et qu'il ne fait pas rien. Il participe largement et il nous appelle dans ce travail. Alors, est-ce qu'on passe à l'évangile,
oui,
selon Luc, peut-être,
oui,
quand même ?
Quelqu'un veut bien le lire ? Guillaume, Luc 17, verset 11-19.
Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire : Jésus, maître, aie pitié de nous. Les voyant, Jésus leur dit : Allez vous montrer aux prêtres. Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit : Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et il lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé.
Oui, alors ici, à mon avis, il s'agit vraiment de la lèpre telle qu'on la conçoit, parce que vous savez, le malade était mis à l'écart, ils avaient une petite clochette. Naaman, apparemment, n'était pas l'objet de mesures prophylactiques. Voilà, ce n'était pas exactement identique. En tout cas, bon, c'est un thème, hein, le baiser aux lépreux, hein, qu'on trouve aussi chez saint François d'Assise. Qui est un thème éminemment évangélique. Et j'ai envie de dire que le texte combine plusieurs choses. Et il y a bien sûr l'incongruité apparente de l'action de grâce du Samaritain. Quand on sait à quel point les Samaritains, à l'époque, c'est comme certains mouvements ultra... en Israël, et puis des jeunes djihadistes, si vous voulez, c'était une haine inexpiable, en particulier à certains moments un peu critiques de l'histoire, au 1er siècle. Le schisme était consommé depuis pas mal de temps, depuis un ou deux siècles. Les Samaritains, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que Élisée vient de Samarie aussi, à une époque où il n'y avait pas ce schisme avec Jérusalem, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un réseau de signification là, peut-être qui nous échappe un petit peu. En tout cas, c'est quand même le Samaritain, c'est l'étranger, hein, c'est celui qu'on ne veut pas voir qui vient pour rendre grâce. Alors, la guérison vient toujours de Dieu, et ici, vous voyez dans le troisième paragraphe, il rend gloire à Dieu à pleine voix, c'est extraordinaire, on l'imagine. Manifestant la santé recouvrée, donc en chantant ou en criant, il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus. Donc la guérison vient de Dieu, elle est bien confessée comme telle, et en même temps c'est la proximité avec le corps de Jésus qui devient l'expression de la gloire de Dieu. Et ça c'est quand même nouveau, c'est quelque chose évidemment qui contribue, hein, à cerner peut-être d'un peu plus près l'identité de Jésus. Hein. Qui dites-vous que je suis? Quel est cet homme dans la proximité duquel on entre dans un régime de réalité différent, hein. En quoi est-il le royaume? D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, je crois que c'est immédiatement avant ou immédiatement après. Non, c'est immédiatement après, il dit, mais le royaume, il est... au milieu de vous, il est en vous. C'est, je crois, les versets qui suivent. Alors, c'est un ensemble de textes un peu disparates, certes, mais quand même, je pense que le rédacteur évangélique sait ce qu'il fait. Donc, dans la proximité physique à Jésus, dans la communion à son corps, c'est quand même ça, dans le fait de pouvoir le toucher, d'être touché par lui, d'être embrassé par lui, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre du salut. Et au fond, tout disciple, même encore aujourd'hui, nous essayons ça, de vivre de cette proximité. Alors, dans l'Église catholique, on le vit de façon sacramentelle, on a gardé cet usage de croire que nous entrons en communion avec lui encore aujourd'hui de façon physique, corporelle, charnelle. Voilà, donc il y a vraiment cette... cette équation qui est faite entre Dieu et Jésus, on serait peut-être tenté de laisser notre œil glisser, mais je crois que c'est important. Donc il y a une équivalence entre la gloire rendue à Dieu et la confession de foi à Jésus. Alors après, effectivement, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Effectivement, c'est impressionnant de découvrir que... au fond, les autres ont été sauvés aussi, les neuf autres. Ah. Ils ont été sauvés, mais peut-être, mais oui, peut-être que la foi, précisément, c'est de voir dans un phénomène qui était peut-être, au fond, naturel, il arrivait qu'on guérisse quand même de maladies, ça pouvait arriver, mais d'y voir la présence de Dieu. C'est-à-dire que c'est une invitation à voir, y compris dans nos vies, dans des choses qui nous paraissent fortuites pour nos esprits positifs, positivistes ou scientistes. on se dit, ben voilà, effectivement, j'ai guéri parce que j'ai pris tel médicament, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on a guéri en prenant tel médicament qu'on est exonéré de rendre grâce. Au fond, on peut rendre grâce aussi que le médicament marche. Donc, alors vous voyez, c'est une guérison peut-être indirecte. Mais au fond, moi, c'est plus souvent dans ces moments-là, d'ailleurs, que je rends grâce, parce que je suis rarement l'objet de miracles. Mais j'espère que je rends grâce quand même au quotidien. On rend grâce après les repas, on rend grâce. Et au fond, la foi l'a sauvée peut-être plus que de sa lèpre. C'est là qu'on touche aussi le fait que les autres ont été guéris de la lèpre, effectivement, mais peut-être qu'ils vont retourner à une vie médiocre. Et lui, parce qu'il aura su reconnaître la source de vie dans le Dieu vivant, va vivre autrement, comme Naaman. Il va reconnaître dans la guérison autre chose qu'une guérison. Ça, je pense que c'est intéressant. Donc, ce n'est pas la foi tellement au sens psychosomatique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as cru, tu as été guéri, puisque les autres aussi. Ce n'est pas tellement ça. C'est que sa foi l'introduit dans une vie qui est une vie de guérison au quotidien et qu'il continuera donc d'être guéri. Oui ? Explicite, oui, tout à fait. Il y a le besoin que les gens l'entendent. C'est un témoignage, tout à fait. Oui. C'est très touchant, d'ailleurs, c'est presque les Fioretti, là, on l'imagine, gambadant. Ouais.
Alors, au début, effectivement, ils se mettent à 10, finalement, pour aller à la rencontre de Jésus. Donc, ce Jésus qui passe là, dans ce village, d'une manière improbable, quand même, parce qu'il va vers Jérusalem, mais en fait... Jésus sans arrêt va vers Jérusalem, mais par des zigzags absolument improbables. Et donc ça, je trouve que c'est quand même assez sympa. C'est, effectivement, symboliquement, aller vers Jérusalem, c'est aller vers le cœur même de la foi, de Dieu. Mais il n'a pas peur de passer dans des faubourgs, j'allais dire, peu fréquentables, pour aller vers Jérusalem. Donc déjà, là, il y a un témoignage, je pense, qui nous est proposé, je dirais, intéressant. Ensuite, les 10 lépreux viennent. Je dirais que déjà, c'est ce que peut apporter l'Église, c'est-à-dire ce rassemblement pour se donner peut-être le courage, la force de pouvoir avancer vers le Christ. C'est vrai que je pense que ça, c'est un des rôles de l'Église, peut-être. D'ailleurs, le 10, là, peut faire penser à quelque chose comme les 10 paroles donc, de la loi de Moïse. Et donc c'est une communauté, surtout pour des Samaritains, puisque eux c'était finalement du judaïsme, mais qui se contentaient uniquement de la Torah. Il n'y avait pas les prophètes ou autre chose. Donc c'était des spécialistes des 10 paroles, et ces 10 lépreux, ben, c'est une communauté de la loi finalement. C'est l'Église peut-être dans son rôle d'enseignant, d'enseignement finalement, parce que d'ailleurs c'est dans ce rapport-là, Jésus maître. Donc il cherche un enseignement, il cherche une parole théologique finalement, comme étant source de progression, de salut pour leur existence. Et finalement ce que leur dit Jésus, c'est allez vous monter au prêtre. C'est qu'en fait, c'est quand il leur dit ça, il leur dit mais en fait vous êtes déjà guéris en fait. Vous pensiez être impur et vous ne l'êtes pas. Parce que quand on regarde dans l'Ancien dans la loi de Moïse justement, ceux qui... Quand on a la lèpre et qu'on n'a plus les plaques blanches, il faut aller se montrer au prêtre pour qu'il constate qu'on n'a plus à être mis au banc comme impur, mais qu'en fait on est pur. Donc Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre, ça veut dire en fait vous êtes déjà purifié, en fait, vous n'êtes pas indigne. Et peut-être que ça c'est un des rôles peut-être de l'Église aussi, c'est de dire aux gens le pardon de Dieu, que ce n'est pas des pestiférés en fait. Et ils ne le savaient pas. Les gens pensaient que non, on est moyen, on est nul, on est pécheur, on est vomi par Dieu, et qu'on n'est que des merdes. Bah, peut-être que l'Église peut dire bah, que non. Voilà, vous êtes, par définition, vous êtes béni, aimé par Dieu, point. Et c'est peut-être ça la mission que donne Jésus dans Jean, c'est peut-être Jean 20, une chose comme ça. Comme j'ai été envoyé, je vous envoie. À ceux à qui vous direz le pardon de Dieu, bah, ils se sentiront pardonnés, ils pourront vivre de ce pardon. Ceux à qui vous ne le direz pas, bah, en fait, ils n'entendront pas parler de ce pardon et du coup ils resteront dans cette souffrance douloureuse de se sentir vomi par Dieu. Donc il les envoie là et finalement, ce qui est sympa, c'est qu'on nous dit que ce n'est pas le rite finalement qui les purifie ou qui les sauve. C'est comme pour Naaman, c'est la démarche en fait. C'est la démarche vers le rite. Et ça, je pense que c'est quand même vrai. Je ne sais pas si le... Je n'ai pas parlé de que la messe n'est pas intéressante ou que l'Eucharistie n'est pas efficace, mais en tout cas pour le culte, je dirais, ben, des fois la prédication est nulle, et puis en plus, ce jour-là, l'organiste avait 42 fièvres et la musique, ça ne marche pas, et puis, enfin bref, c'est nul. Mais ça n'empêche le fait de se déplacer, sortir de chez soi le dimanche matin, d'aller alors qu'il pleut et qu'il fait froid, dans un lieu bizarre avec des gens qu'on n'a pas choisi pour écouter un culte nul, ben, déjà... Vous voyez, il y a une
commune avec des vêtements étranges.
Avec des vêtements étranges. Ben, il y a comme une, quelque chose qui prépare à quelque chose qui vient de Dieu, de neuf, d'inattendu. Et ça, il y a déjà là-dedans une ouverture à ce que tu disais. Voilà, le salut est au milieu de vous, au-dedans de vous. Une ouverture à cette nouveauté ça, qui vient de Dieu.
Je pense que quand même, on ne repart pas à vie hein, avec votre description. J'ai vu ça. Alors peut-être que le Seigneur est en marche, on le ressent.
Il y a des moments de désert. Là,
il peut y avoir des moments de désert, mais qui sont... Non, mais je pense que grosso modo, surtout en plus, bon, effectivement, on met la prédication en ligne sur Internet, c'est pas la même chose. Bon, on peut être dans l'ouverture à une chose d'intéressant humain, mais le déplacement, si vous voulez, est comme quand même un exercice spirituel qui permet de faire place. Et là, c'est le chemin vers... C'est le chemin vers le rite. C'est dans ce cheminement qu'ils reçoivent cette purification, finalement. Mais c'est intéressant de voir que cette purification, finalement, on pourrait dire le pardon, finalement, non ? La réconciliation, je ne sais pas comment on peut dire. Ce n'est pas le salut en soi, le ta foi, le relève-toi, c'est-à-dire ressuscite, finalement. Va, cette capacité de pouvoir aller se mettre en route dans une vocation personnelle... J'allais dire sans être le petit toutou du Christ qui va suivre, tout bien le maître, mais dans cette liberté d'une vocation personnelle dans le monde, finalement. Et puis ce ta foi t'a sauvé, donc vraiment le salut, c'est encore un peu plus loin. Donc il y a le salut progressif, finalement, qui vient, qui passe par peut-être cette recherche communautaire, peut-être c'est ce chemin vers le rite, mais qui va ensuite dans le fait de rendre grâce, de revenir, parce que finalement, là, il revient, c'est le verbe de la conversion, finalement. C'est surtout dans l'évangile selon Luc, il martèle sans arrêt l'idée de la conversion, c'est-à-dire un changement de mentalité pour vraiment vivre de ce que Dieu apporte dans notre existence. C'est teshuva en hébreu, et là c'est épistrophé. Il y a plusieurs mots pour dire cette métanoïa. Il y a plusieurs mots pour dire cette teshuva, voilà. Mais là, revint, c'est typiquement ça. Donc il y a une conversion. Il était. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette conversion, c'est faire le contraire de ce que Jésus lui disait finalement. Il lui disait allez au temple, va faire ce rite, et ça va aller mieux. Chemin faisant. Il fait demi-tour, c'est-à-dire que c'était l'intention du rite qui lui a fait prendre conscience d'un retournement, finalement. Mais peut-être que le pur et l'impur, c'est peut-être un peu ça aussi dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce passage du pur à l'impur lui rend du coup, lui fait se sentir digne d'aller vraiment au pied de Jésus, finalement, au lieu de rester à distance. Et donc, ceci se sent digne d'autre chose. Et du coup, il a le courage de faire le contraire de ce que disait Jésus. Et c'est ce qu'il fallait faire, en fait. C'est quand même paradoxal. Et donc là, ça nous dit aussi que la question, c'est pas d'obéir comme des petits toutous à ce que nous raconte Jésus. C'est dans un esprit, c'est dans un cheminement, c'est dans un questionnement, c'est dans se sentir autorisé, finalement, de faire... selon ce que le Saint-Esprit nous inspirera, finalement, j'allais dire.
Alors, tu disais, il vient au pied de Jésus. Oui. Nous allons voir dans le dernier texte quelqu'un aussi qui se tient au pied de Jésus, dans cette proximité physique. Hein. Je pensais au livre de Toby Nathan. Vous connaissez Toby Nathan, l'ethnopsychiatre, dont l'un des livres s'appelle « L'influence qui guérit ». J'aime bien cette idée, l'influence qui guérit. C'est l'idée que quand on est dans la proximité de quelqu'un, ça réveille en nous des sources d'auto-guérison. C'est ça les guérisons. C'est quelque chose qui dans la qualité de la relation, comme la femme hémorroïse qui touche
le manteau, le talit,
le châle de prière de Jésus. C'est, voilà. Alors, il s'agit de l'onction à Béthanie, bien connue, racontée par Jean. Nous sommes juste avant l'entrée de Jésus dans Jérusalem. À la veille donc de la semaine, la grande, voilà. Dans les synoptiques, on parle d'une femme pécheresse, et vous savez que cette femme pécheresse, ici le personnage c'est Marie, la sœur de Marthe, donc la sœur de Lazare, est souvent superposée à une troisième femme qui s'appelle aussi Marie de Magdala, guérie de sept démons. Bérulle confondait les trois. La tradition française, toute une tradition mystique, les appelle Marie-Madeleine. Voilà. Mais en fait, ce sont des femmes différentes. Et ici, c'est Marie, la sœur de Marthe, donc la contemplative. Et vous voyez que Marthe sert à table, une fois de plus. Alors, qui veut bien lire ? Nous avons eu deux messieurs, alors peut-être une dame. Allons, Nicole. Ah, voilà.
À la voix forte.
Et puissante, pour rendre gloire, chanter les merveilles de Dieu.
6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où se trouvait Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. On lui offrit un dîner en son honneur. Marthe servait, tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Alors, Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui-là même qui allait le livrer, lui dit : Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? Il parla ainsi, non qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Jésus dit alors : Laisse-la, elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Vous en avez toujours, mais moi, vous ne m'avez pas.
Bon, c'est un texte merveilleux, d'une grande puissance suggestive. On pense bien sûr aussi à la myrrhe, hein, puisqu'on vient de fêter l'Épiphanie, donc ce parfum qui servait à l'embaumement. On ne peut pas ne pas s'empêcher, bien sûr, de penser aussi, puisque l'un des chefs d'accusation, c'est l'appellation de Christ, c'est pas la seule bien sûr, mais Christ veut dire, c'est le grec, la traduction grecque de Machar qui a donné Messie. Le Messie en hébreu, le Christ en grec, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, celui qui a été oint. Vous savez qu'en français c'est pas très heureux, mais voilà, qui a été oint, qui a reçu l'onction, qui a été frotté d'huile comme un roi, qui a reçu l'huile sur sa tête. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ici, au fond, par un réseau d'images extraordinaire, c'est la véritable onction christique, au fond. C'est l'ordination de Jésus comme Christ. Alors évidemment, comme pour la fillette du premier texte qu'on a lu, comme pour le Samaritain du deuxième texte, bah, ça ne vient pas de la personne à laquelle on penserait, quoi. C'est pas Caïphe, c'est pas Pilate, c'est pas Pierre, c'est pas je ne sais quel responsable. Ça vient d'une femme qui peut-être d'ailleurs a des sentiments équivoques pour Jésus. Enfin, c'est ça qui est étonnant. D'ailleurs, on est en plein dans notre sujet là, hein, cher corps monde. Hein. On ne peut pas avoir la bonne interprétation, la bonne herméneutique, la bonne exégèse. C'est pas possible. À partir du moment où on est dans la chair, à partir du moment où on joue le jeu de l'incarnation, il faut accepter ça. Il y a une forme d'opacité, il y a une forme de alors j'ose pas dire mystère maintenant, mais dans l'amour qu'il y a de Marie pour Jésus, on n'est ni dans le pur ni dans l'impur. On est dans la foi.
Oui, c'est intéressant cette histoire de qu'il y aurait l'onction messianique, parce que dans un sens, ce dîner, ça peut être aussi un peu un banquet messianique. Oui.
Et
dans
puis l'entrée à Jérusalem après aussi.
Et puis l'entrée à Jérusalem aussi après. Ouais. Et donc c'est vraiment là, il y a des gros signaux, si vous voulez, qui font référence à des choses attendues finalement, qui qualifient l'arrivée du Messie. Avec ce banquet, ce repas qu'on peut avoir mangé à la table du Messie. Alors, tu disais que c'est ambigu, cette histoire de relation entre Marie et Jésus.
C'est pas négatif du tout. Je veux dire qu'on n'a pas à juger, quoi.
Non, mais c'est justement, c'est intéressant, parce qu'on voit des tas de romans, des bandes dessinées qui disent « il y a un secret du Vatican qui est conservé avec des...
» Ah, il y en a un, tu savais pas.
Pour dire que voilà, on a caché que Jésus avait un fils et machin, on a ça sans arrêt, c'est très très drôle si vous voulez. Et moi je trouve que c'est sympathique parce que ça met en scène Jésus, souvent couchant avec Marie-Madeleine, ce qui est tout à fait, je dirais, pourquoi pas. Et c'est pas le problème si vous voulez, c'est pas le problème du tout. Le fait qu'on sache
certaines
pas...
Certaines personnes, ça l'est quand même.
Le fait qu'on nous dise pas si Jésus était marié ou non marié, c'est-à-dire c'est pas la question. Si ce n'est pas la question, c'est qu'il a pu, être en couple avec Marie-Madeleine ou pas en couple avec Marie-Madeleine, ce n'est pas le problème finalement. Puisqu'on ne nous en dit rien, c'est que ce n'est pas un enjeu pour sa qualité de Messie et de Christ. Donc ensuite, on peut préférer le voir célibataire. Le fait est que c'est sa vie privée et qu'on s'en fiche. C'est donc bon, voilà, c'est tout. Et ce n'est pas un secret, machin, c'est qu'on s'en fiche. Ce n'est pas la question. Et que... Bon, alors ensuite, quand il y a une onction des pieds, c'est quand même intéressant, parce que nous, on attendrait une onction de la tête, quand même. C'est que les pieds, ça veut dire autre chose, quand même. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le pied, c'est déjà, comme on dit, prendre son pied, si vous voulez. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, c'est quand même une connotation pour le sexe, un euphémisme pour le sexe. Alors, bien sûr, c'est pas ça qui est en cause, ici, ni dans l'anecdote, qui est sans doute, à mon avis, une anecdote historique, qui est reprise dans différents types de prédications dans les différents évangiles. Donc c'est pas que ça soit du roman qui nous invente une histoire, machin. C'est qu'il y a un épisode historique qui est arrivé avec Jésus, une femme qui, et qu'il utilise cet épisode historique pour nous en donner une prédication qui parle du salut que Jésus-Christ nous apporte. Et donc, l'onction des pieds, l'idée... Donc on honore les pieds de Jésus, donc sa capacité, sa fécondité, si vous voulez, sa fécondité de vie. Alors il ne faut pas y voir du tout une connotation sexuelle, il faut y voir une prédication où ce n'est pas tant la tête de Jésus, mais sa capacité à donner la vie qu'elle a honorée. Pas la vie physique, parce qu'on ne sait pas s'il était marié ou pas marié, mais on sait qu'il n'avait pas d'enfant en tout cas. S'il avait eu un enfant, il y aurait eu dans le livre des Actes tout de suite une dynastie qui serait née avec les enfants de Jésus. Il y a bien...
C'est ça le secret du Vatican.
Qui a un enfant?
C'était le Da Vinci Code, c'était ça.
Le Da Vinci Code. C'est pas possible. Parce qu'effectivement, Pierre est au début chef de l'église de Jérusalem. Ensuite, il se fait déboulonner parce qu'il casse un peu les pieds de tout le monde. Et donc, on met Jacques, le frère du Seigneur, que ça soit le demi-frère de Jésus ou le frère de sang de Jésus, le fils de Marie ou que le fils de Joseph, on n'en sait rien. Enfin bref, le frère de Jésus, Jacques, devient tout d'un coup le chef de l'église. Et on le voit, il est au-dessus de Pierre et de Paul. Imaginez que Jésus ait eu un fils, il serait directement successeur de Jésus, dans cette logique-là. Donc Jésus n'a pas eu d'enfant, ou en tout cas vivant. Enfin bref, donc ce n'est pas sa fécondité biologique, son sexe qui est honoré, évidemment non, mais à travers ça, c'est quand même sa capacité à donner la vie qui est là, honorée, qui est oint d'huile. Mais il peut y avoir aussi, le pied, c'est aussi la capacité à avancer, à cheminer. Et donc ça, on le connaît, hein, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce une belle, bonne nouvelle. On a ça dans Nahum, on a ça dans l'Épître aux Romains. Et donc c'est le Jésus chemin finalement, c'est ce Jésus qui est en marche, ce Jésus qui nous met en marche, comme on vient de voir dans l'histoire du lépreux. Cette capacité à susciter une dynamique de vie, un cheminement de vie, une évolution dans notre façon de penser, façon de voir. Et puis enfin, le pied, c'est le contact avec le sol, avec la poussière du sol. Et là, je pense qu'on est dans notre thème aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas que le Jésus pur esprit, pure théologie, pure spiritualité. C'est un Jésus avec les pieds sur la terre et sa façon d'être au monde, d'être dans la compassion de ceux qui souffrent, alors que ce n'était pas son job, si vous voulez. Guérir physiquement des gens, c'était contre-performant pour lui. Il était là pour une réconciliation avec Dieu, une réconciliation avec les autres, une réconciliation avec notre propre être. Mais ensuite, il voit des gens qui souffrent, il a une capacité à soulager cette souffrance. Ben, il le fait, il le dit, ben, écoutez, n'en parlez pas trop parce que ça vient parasiter mon message qui est de centrer sur l'essentiel qui n'est pas que la santé du corps. Comme on dit pour le bonne année, surtout la santé. Oui, alors la santé, c'est hyper important. Bon, mais moi, je connais des gens malades qui ont une vie extraordinairement rayonnante et heureuse, et puis des gens en pleine bonne santé qui pètent la forme et qui ont une vie triste et déprimée. Donc, oui, la santé, moi, je suis d'accord, vous me mettez en bonne santé que malade. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Ben, pourtant, Jésus s'occupait aussi de la santé. Voilà. Donc la santé, oui, aussi. On peut souhaiter bonne santé aux gens et on peut travailler la santé. Et donc il n'y a pas cette alternative entre soit le spirituel, soit la santé. Non, on veut tout. Voilà. Et Jésus nous propose tout et de travailler sur la santé. Et voilà, ce contact avec le sol de Jésus, cette façon d'être au monde, aussi dans la solidarité, aussi avoir une bourse comme Jésus, du fric, des vrais sous, pour donner aux pauvres, quoi. C'était pas le culte de la pauvreté, de la misère, du misérabilisme, du pauvre Jésus qui n'a rien. Ben non, il avait une bourse pour donner de l'argent aux pauvres, il avait une robe sans couture qui faisait l'envie des soldats romains, ben oui, voilà. Donc, une façon d'être au monde aussi, qui est honorée, là, je crois, par cette femme. Et puis, cet ensevelissement, ben, c'est quand même le soin du corps de Jésus. Voilà, on s'intéresse au Jésus qui nous fait vivre encore aujourd'hui, on n'a pas la chance de le rencontrer, ben on aurait bien aimé voir le vrai Jésus, voir sa tête, voir sa façon d'être au monde, ben on ne l'a pas, mais on aurait aimé, et ils ont eu cette chance, et ils en sont témoins, et ben on les envie un peu, mais c'est comme ça.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le lavement des pieds que rapporte Jean, Jésus... parce que là, au fond, il est quand même dans la position du maître. Donc, pour nous, ça cadre. Comme c'est, voilà, c'est quand même le Seigneur. Donc, qu'une femme lui parfume les pieds, à la limite, on trouve ça... Enfin, dans notre imagerie, ça passe.
Il est bien à sa place, ouais.
Et en fait, lui, il va refaire le même geste. Et les pieds, c'est aussi ce qui foule le sol, ce qui est sale. Il va refaire le même geste pour ses apôtres. Alors, effectivement, là, c'est...
Tu veux dire qu'il s'est laissé évangéliser par la femme, en fait,
et oui,
dans un sens.
Et il se laisse évangéliser constamment par des femmes, par la syrophénicienne, par sa mère elle-même, par la femme adultère. Voilà. Alors, on va en rester là, peut-être, sur ce mystère. Et en tout cas, la prochaine fois, il y aura un peu moins de parfum, puisque ce sera du Saint-Paul, donc c'est un peu plus, voilà, plus charpenté. Et ce sera le chapitre 5 de l'Épître aux Galates, et nous serons à Saint-Eustache.
Question. Est-ce que Judas est allumé comme ça dans d'autres passages de l'Évangile ? Je ne me rappelle pas l'avoir vu ailleurs que...
Non, c'est là.
Alors là, si vous voulez, je vous disais que Luc, c'est le... Alors là, donc, là c'est Jean. Mais Luc et Jean... Ils sont effectivement, Judas, c'est la figure du mal, et puis il y a d'autres évangiles où il est présenté plutôt comme un disciple proche de Jésus et chargé de mission finalement pour livrer Jésus, mais le mot livrer est ambigu, ça peut vouloir dire trahir et vendre, ça peut vouloir dire livrer, délivrer finalement Jésus au Sanhédrin, en attendant que Jésus, présenté devant le Sanhédrin, ben, va se présenter et va être reconnu, manifesté comme Messie devant les autorités, et ça va être reconnu. Donc il y a une... Là aussi, je pense que, si vous voulez, il y a un passage historique d'un très proche de Jésus qui trahit et qui vend Jésus. Du coup, ça pose problème quand même. Un disciple choisi par Jésus qui trahit Jésus, ça pose quand même problème. Et il y a deux grandes écoles d'interprétation de ce fait historique un peu gênant. Une où Judas se déconvertit, il était converti, il était juste, il se déconvertit, et ça suggère la liberté de l'homme, cette capacité à se convertir ou à revenir en arrière et se rééloigner, ou bien l'autre...
Ça c'est Jean et...
C'est Jean et Luc, je pense, et puis c'est Matthieu et Marc, peut-être plus, enfin il faudrait vérifier, mais je pense que c'est ça, parce que dans Luc, il y a marqué « le diable entre dans Judas ». Donc il y a cette déconversion de Judas qui est explicitement dite dans Luc. Les autres, il y a « ce que tu as à faire, fais-le vite ». Donc cet envoi en mission de Judas. qui est peut-être possible. Et puis cette déception de Judas, il pensait que du coup Jésus serait reconnu, et voyant que le Sanhédrin ne le reconnaît pas, Judas déprime et donc va se suicider. Alors que ceux qui le voient plutôt comme étant déconverti, c'est plutôt, il se prend les pieds dans ses lacets et tombe, comme si c'était là encore une punition divine d'un accident ou d'une conséquence de sa vie mal placée, je ne sais pas.
Et c'est vrai que la phrase « ce que tu as à faire, fais-le vite », on l'entend souvent à la lumière des évangiles négatifs, justement. Mmh. Alors qu'en fait, la phrase en elle-même est assez neutre, effectivement. Oui, oui. Ouais.
Enfin bon. Écoutez, bon retour vers vos foyers, et puis merci de nous avoir rejoints.
Merci à toi. Merci.